Alors, je vais tenter de répondre à cette question. Quels sont les effets psychosociaux du redoublement? Et peut-être juste avant cela, je voudrais attirer votre attention sur le terme de psychosocial. Parce qu'ici, on a affaire à un terme extrêmement générique. Psychosocial, on peut l'entendre comme quelque chose de l'ordre du fonctionnement psychologique, de l'individu en contexte. La littérature à laquelle je fais référence ici pour répondre à cette question, elle parle de cet aspect psychosocial plutôt en termes des rapports entre des facteurs motivationnels et affectifs dans le contexte de la classe. Et pour vous donner une idée un peu plus précise, par psychosocial, on entend ici le plus souvent quelque chose de l'ordre des ajustements émotionnels, sociaux et comportementaux des élèves au sein de la classe. Voilà, je voulais circonscrire un petit peu ce terme pour qu'on puisse parler à peu près tous de la même chose. Alors, mon plan, il va être assez simple, il va être en trois parties. Je vais vous dire dans un premier temps que l'état des lieux est malheureusement pas particulièrement consensuel sur cette question. Je vais essayer d'organiser cette présentation en deux périodes. Avant 2005, on va voir qu'avant 2005, c'est fantastique, tout le monde est d'accord sur le fait que le redoublement a un impact négatif sur ces aspects psychosociaux. Et après 2005, alors je dis 2005, ça n'a rien à voir avec le fait que la publication qu'on a fait avec Thierry Rocher, mais après 2005, on va voir qu'il y a beaucoup moins de consensus, que les recherches sont autrement plus nuancées en fonction des contextes notamment. Dans un second temps, je vais essayer de réfléchir avec vous sur les possibles explications concernant cette variabilité, cette absence de consensus, et on va voir que je vais essayer de proposer des éléments explicatifs de différentes natures en tout cas. Et enfin, je vais tenter de faire cette réponse, et cette réponse, j'insiste sur le fait qu'elle sera en contexte, puisqu'on va voir à quel point le contexte va dépendre de la réponse que l'on va pouvoir apporter à cette question. Et vous allez voir que je dévoile tout de suite ce qui va se passer, c'est que je vais faire une réponse malheureusement un peu normande, et je vais vous dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un risque assez important d'avancer des vertus au redoublement sur ces facteurs psychosociaux. Alors allons-y, cet état des lieux. Je m'étais engagé à vous parler de deux périodes, et bien c'est ce que je fais, avant et après 2005, pour simplifier le propos, si vous voulez. Je vais le simplifier à outrance, et je vais dire qu'avant 2005, on a des effets négatifs chez les élèves redoublants en comparaison aux élèves promus sur les aspects sociaux du fonctionnement psychologique. Je me permets de dire ça en m'appuyant sur des méta-analyses, celles de Holmes et Matthews, on va en entendre parler, je pense, beaucoup, celles de Holmes plus tard, Jimerson un petit peu plus tard. Donc ici, que ce soit en maternelle, primaire ou collège, on nous dit que le redoublement a un impact négatif sur un ensemble de facteurs psychosociaux. Eh bien, en France, on a à peu près ce résultat-là, le travail qu'on a effectué avec Thierry s'inscrit totalement dans cette lignée. Nous montrions à l'époque que le redoublement avait un impact négatif essentiellement, je synthétise là aussi, sur le sentiment de compétence et la motivation scolaire, évalué à la fois en fin de CM2, mais aussi en fin de collège, et ceci à niveau de compétence égal. Nos résultats montraient également à l'époque que cet impact négatif du redoublement sur ces aspects psychosociaux était d'autant plus important que le redoublement était précoce. Globalement, lorsque je redouble en CP, cet impact va être d'autant plus massif sur mon ajustement psychosocial. Il faut voir une chose, et je présente cela parce que c'est assez important, c'est que à l'époque, on s'était demandé quel était le processus sous-jacent. Et cette notion de processus sous-jacent, on verra que c'est une question qui a tendance à disparaître aujourd'hui. Et on a essayé de comprendre dans quelle mesure le retard scolaire, ici, pouvait avoir un impact sur les acquisitions cognitives, et essayer de comprendre dans quelle mesure ce redoublement pouvait engendrer des attitudes ou des comportements chez les élèves qui allaient pouvoir en retour avoir un impact sur ces acquisitions cognitives. Et on montrait par exemple que le retard scolaire avait un impact sur la motivation, qui lui-même avait un impact sur les comportements d'apprentissage, qui en retour avaient un impact sur les acquisitions. On montrait donc cette première grande voie, et puis on montrait également une seconde voie qui transitait par les croyances d'auto-efficacité, avec cette idée que plus je redouble, moins j'ai un sentiment d'auto-efficacité élevé, moins j'ai un sentiment d'auto-efficacité élevé, moins mes acquisitions cognitives seront élevées. Alors, deuxième période, pour simplifier toujours ici, après 2005, on a une absence de consensus en fonction du contexte. Qu'est-ce qui se passe ? On va constater dans les études nord-américaines essentiellement que certains auteurs vont commencer à nous dire que les élèves redoublants en CP ne diffèrent pas significativement de leurs homologues concernant un score de motivation pour la poursuite des études évaluées en seconde. C'est-à-dire quand je compare un groupe de redoublants à un groupe de non-redoublants, excusez-moi, donc un groupe de promus, qui va être quasiment identique, on est sur des méthodologies assez pointues pour assurer la comparaison des groupes, eh bien on constate que finalement, 9 ans plus tard, en seconde, l'équivalent de la seconde ici en France, eh bien ces deux groupes ne diffèrent pas en ce qui concerne ces facteurs psychosociaux. On va voir d'autres études. Ici, je faisais référence à une étude sous presse de Chem et Hughes et collaborateurs. On va voir l'étude de Wu et collaborateurs aussi qui va nous dire que les redoublants ont une meilleure adaptation psychosociale que leurs homologues non redoublants. Ici, rendez-vous compte, on est dans un constat inverse. On est en train de parler d'effets bénéfiques du redoublement sur ces aspects psychosociaux. Aspects psychosociaux, ici opérationnalisés via l'hyperactivité évaluée par l'enseignant, l'engagement comportemental, par exemple le sentiment de retrait, le retrait, par exemple évalué par les pairs, etc. Mais on va revenir sur ce point. En Belgique, après 2005, dans un autre contexte, on a l'étude de Gauss et collaborateurs, et là aussi, je pense qu'elle va être, on va en parler beaucoup. Et bien, qu'est-ce que nous dit cette étude ? C'est que le redoublement en CP ne présente pas d'aspect positif dans les trajectoires psychosociales des élèves jusqu'en début de collège. Autrement dit, là, on modère totalement le propos nord-américain, et les auteurs vont jusqu'à nous dire que finalement, il y a fort à parier que si les élèves qui ont été l'objet d'un redoublement avaient été promus, il y a fort à parier qu'ils auraient acquis des niveaux d'ajustement psychosociaux au moins égaux, voire supérieurs à leurs pairs promus. Donc ici, vous comprenez qu'on est réellement dans une absence de consensus. Alors comment on va expliquer, c'était la deuxième partie de ma présentation, comment on va expliquer cela ? Eh bien, on va voir, je vais en parler en termes d'évolution. On va voir des évolutions, on va voir d'un point de vue manifeste, d'un point de vue patent, des évolutions. Ici, ce sont de réelles améliorations méthodologiques. Thierry nous en a fait part déjà. Je dirais qu'ici, on va s'attacher, par exemple, dans tous les travaux actuels, à s'assurer, à contrôler des biais de sélection dans la création des groupes d'élèves promus et redoublants, notamment par des méthodes d'appariement basées sur des scores de propension. Toutes les études actuelles, enfin, une majorité des études actuelles vont être longitudinales. Les études actuelles vont s'assurer, vont faire attention à la structure emboîtée des données pour avoir des estimateurs moins biaisés. Ils vont utiliser des modélisations multiniveaux. Bref, c'est imparable. Il y a réellement des progrès méthodologiques qui pourraient expliquer ces changements de constat. On va voir quelque chose, et là, j'en suis pas le spécialiste, mais j'ai envie de vous poser des questions à mon tour. On va pouvoir avoir des évolutions. On peut faire l'hypothèse qu'il peut y avoir des évolutions dans le processus de décision de maintien ou de promotion. Et ces évolutions-là, elles peuvent se faire entre les contextes et au sein d'un même contexte. Je vais essayer d'être plus clair. On peut imaginer des différences de processus de décision, naturellement, en termes de processus de maintien dans un contexte éducatif et dans un autre, et on peut imaginer qu'au cours du temps, ce processus de décision au sein d'un même contexte éducatif a pu évoluer. Ce qui rajoute de la variabilité, et comprenez-moi bien, ici, on est sur des variables qui ne sont pas du tout contrôlées lorsque je fais cette synthèse-là, en disant qu'il y a une variabilité des résultats. Deuxième hypothèse qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir imaginer aussi une évolution ou des différences en termes de ressources qui sont proposées aux élèves d'un contexte éducatif à un autre. Et on va pouvoir imaginer une évolution des ressources qui sont proposées au sein d'un même contexte éducatif. Ce sont des hypothèses que je fais. Peut-être Nathalie Mons, par exemple, pourrait être autrement plus précise que moi dans la comparaison de ces systèmes éducatifs. Et ces histoires de processus d'édition redoublement, mais aussi des ressources proposées redoublants. On verra cela plus tard, je pense. Et enfin, en termes d'opérationnalisation, et là c'est quelque chose d'extrêmement concret, j'attire votre attention sur le fait que ici on s'est autorisé à parler de variables psychosociales. Vous avez compris que c'était un terme générique. L'opérationnalisation de ces variables psychosociales va aller de la motivation, l'auto-efficacité, l'hyperactivité, l'engagement comportemental, le retrait, et j'en passe. Donc on peut faire aussi l'hypothèse que l'impact du redoublement sur certaines opérationnalisations de ces aspects psychosociaux ne va pas être identique selon ce type d'opérationnalisation. Pour aller toujours dans ce sens, on va aussi pouvoir apporter comme tentative d'explication cette absence de consensus dans les résultats le fait que les cadres théoriques sont distincts. Alors ça, c'est pas problématique qu'on ait des cadres théoriques distincts. On va avoir énormément d'études qui vont s'intéresser à la motivation autodéterminée de Sir Ryan. C'est quoi ? Ce sont différents types de régulation intrinsèque ou extrinsèque. Globalement, je suis un élève, je travaille sur la tâche parce que cela me donne du plaisir, cela me procure du plaisir, ou je suis un élève qui travaille sur la tâche pour éviter un désagrément, une punition, ou pour obtenir une récompense, qui n'a rien à voir avec la tâche. Vous voyez, on va avoir aussi beaucoup de références au cadre théorique de Bandura sur l'auto-efficacité, où on va imaginer que cette auto-efficacité, c'est pas tant les compétences réelles de l'élève, mais bien les perceptions qu'il a lui-même de ses compétences qui vont avoir un impact, une importance. On va avoir des théories qui sont un peu plus de psychologie sociale, je dirais fondamentale, avec des notions de comparaison sociale, des théories totalement sociologiques, avec des théories de l'étiquetage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, ça ne me pose pas un problème fondamentalement qu'on fasse référence à différents cadres théoriques. Ce que l'on peut voir cependant dans la littérature, c'est que ces cadres théoriques, on va les utiliser dans des contextes extrêmement généraux et qu'on va plutôt tenter d'expliquer des résultats que mettre réellement à l'épreuve des hypothèses théoriques dans un contexte extrêmement particulier et voir si on a raison ou tort, c'est-à-dire qu'on s'inscrit réellement dans une démarche hypothético-déductive. Et c'est peut-être ça aussi qui participe au fait que l'on ne sait pas trop quoi dire de l'impact du redoublement sur ces aspects psychosociaux. On va voir certains auteurs qui vont d'ailleurs nous dire à ce sujet qu'il est aujourd'hui réellement nécessaire que les mesures de ces variables psychosociales dans les études futures soient explicitement définies et théoriquement fondées, pour qu'on puisse avancer et mieux comprendre, nous les chercheurs, l'impact réel, le processus en jeu réel du redoublement sur ces aspects psychosociaux. Et bien voilà, j'en suis au dernier point de cette présentation, je pense que je vais pouvoir respecter le temps. La réponse, et bien elle est totalement en contexte si vous m'avez suivi. Le tableau, il est réellement peu homogène. Avant 2005, on a un réel consensus sur les effets négatifs indépendamment du contexte. Après 2005, on a des nuances importantes ou des résultats opposés en fonction du contexte. On va voir qu'au niveau européen, on ne va pas du tout dans les mêmes conclusions qu'au niveau nord-américain, notamment. Alors, est-ce que je peux m'autoriser, moi, à tenter de vous donner une réponse ? Mais je suis assez ennuyé, parce que si je prends la posture de chercheur, la preuve, elle ne se fait pas sur une seule étude, sur l'élégance d'une étude, d'une expérimentation, ou sur l'élégance de la méthodologie qui est utilisée dans cette étude. Elle se fait tout simplement sur la réplication, la répétition des résultats. Et ici, les résultats, dans un contexte proche d'une autre, en France ou en Europe, et bien finalement, on en a très peu en ce qui concerne les études sur lesquelles on peut réellement porter notre attention. Et de fait, j'ai envie de dire que depuis les travaux qu'on a réalisés avec Thierry et l'étude de Gousse en 2013, assez récente, qui est à mon avis extrêmement importante, et bien on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour essayer d'apporter une réponse à cette question. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire aujourd'hui qu'en France, actuellement, en l'état actuel des connaissances, il reste difficile de s'inscrire dans le cadre nord-américain et il nous paraît difficile à un certain d'avancer que le redoublement puisse réellement présenter des effets positifs dans le développement psychosocial des élèves. Je vous remercie.